des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité aujourd'hui sera Lim Hoang Ngoc, membre du CN du Parti Socialiste. Alors, il se trouve qu'il y avait une petite fête à Ligre le 22 avril pour écouter les résultats tous ensemble. On était un petit peu angoissés, mais voilà. Et il se trouve que Lim Hoang Ngoc est passé par là sur le coup de 9h du soir. Eh bien, je l'ai coincé pour lui demander ce qu'il pensait des résultats.
Et 55 secondes. Voici maintenant notre estimation Ipsos des résultats de ce référendum. Les Français rejettent.
Eh bien non, ce cri n'a pas été le cri des auditeurs présents le 22 avril lors des résultats. C'était celui qu'on avait entendu le 29 mai. Voilà plutôt ce qu'on a entendu au moment des résultats du 22 avril.
19h59 et 45 secondes. Voici donc l'estimation Ipsos du premier tour de l'élection. Ces deux candidats disputeront donc le deuxième tour le 6 mai prochain.
C'est sans doute une bonne surprise. Ségolène Royal est présente au deuxième tour. Donc si on souhaite que la gauche gagne les élections, il va falloir qu'on trouve des arguments contre la politique que propose Nicolas Sarkozy. Quels seraient ceux que vous pourriez nous proposer contre lui?
C'est une très bonne nouvelle que la gauche soit à nouveau au deuxième tour de l'élection. Les Français, manifestement, ont envie de débat et ont envie d'une vraie confrontation entre les idées de gauche et les idées de droite. Et un des enseignements sur lesquels on est très peu revenu dans ce premier tour, c'est que l'hypothèse centriste a fait flop. On aurait très bien pu penser que une troisième voie eût été possible et que le vote utile se soit manifesté sur François Bayrou. Or, l'écart de 7 points entre Bayrou et Royal indique que les Français veulent qu'il y ait ce débat droite-gauche et que, franchement, le candidat du centre, s'il avait été au deuxième tour, c'était vraiment l'incarnation de 25 ans de pensée unique où, fondamentalement, les idées de François Bayrou sont celles qui sont appliquées dans notre pays et en Europe depuis cette période.
Mais certains pourraient vous dire que, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure à la télévision, que finalement, beaucoup de ceux qui ont voté pour Ségolène Royal ont voté pour elle par en désespoir de cause, on pourrait dire, pour faire obstacle à Nicolas Sarkozy notamment. Est-ce qu'il n'y a pas un problème lié au fait que le Parti Socialiste serait pas assez à gauche? Ou dit autrement, est-ce qu'il y a l'espoir que le Parti Socialiste, entre les deux tours, brusquement se gauchise, si on peut dire?
Ségolène Royal a su rassembler à gauche ceux qui sont un petit peu plus libéraux et ceux qui sont un petit peu plus sensibles aux idées de la gauche de la gauche. Tout le monde est au courant, il y a deux lignes au Parti Socialiste. Il y a une aile droite, une aile gauche, le débat n'a jamais été tranché. Et la désignation de Ségolène Royal, c'est cette sorte de juste milieu. En tout cas, les appels du pied de Michel Rocard et de Bernard Kouchner à François Bayrou, qui étaient quasiment des appels à voter Bayrou au premier tour, n'ont pas reçu l'aval des Français qui ont pris le risque, malgré ce que disaient les sondages de deuxième tour, de placer la candidate de gauche face au candidat de droite. Et là, on va avoir, je l'espère, une vraie confrontation de programme dans les deux semaines qui viennent.
Si on revient justement à ma première question de départ, c'est-à-dire quelles sont les propositions que fait Nicolas Sarkozy qui seraient les plus inquiétantes? Parce que moi, quand je l'ai lu, il y a certains trucs qui m'ont fait tiquer, notamment la franchise pour les soins de santé de 200 euros, apparemment.
En matière économique, Nicolas Sarkozy incarne la rupture avec le gaullisme. Moi, je suis de ceux qui pensent que la France du général de Gaulle, je vous l'ai dit à de nombreuses reprises, était bien plus socialiste que l'Angleterre de Tony Blair. Le programme de Nicolas Sarkozy rompt avec l'État social qui fut celui de la France depuis le compromis de 45, qui déjà a été largement démantelé depuis 1983. Mais là, on va encore aller plus loin. Vous avez raison de dire qu'en matière de sécurité sociale, un certain nombre de choses ont été mises en chantier au cours du quinquennat passé, et on risque ici d'aller plus loin. Je rappellerai en matière de sécurité sociale que le rapport Chadla, qui avait été commandé avant la réforme d'Oust-Blazy, prévoyait de séparer les gros risques et les petits risques, et de ne faire rembourser que les gros risques. Et petit à petit, les petits risques, devenant de plus en plus gros, on aurait fait monter en puissance les complémentaires dans la prise en charge de ces risques-là. Avec, pour commencer, le pied mis dans l'entrebâillement de la porte avec une franchise de 1 euro. On a oublié que déjà dans cette loi-là, il y a une franchise de 1 euro dans les consultations médicales. Et là, le projet est de passer cette franchise à 100 euros remboursable par les complémentaires. Donc, on a une privatisation rampante qui va devenir de moins en moins rampante de la sécurité sociale. En matière de droit du travail, Nicolas Sarkozy propose également de remettre en cause le code du travail, puisque ça serait la fin du contrat à durée indéterminée tel que nous le connaissons à travers la fusion de tous les contrats en un seul contrat unique. Un contrat unique, il ne faut pas que les gens se trompent, ça veut dire peut-être un CDI dans les textes, mais assoupli, hein, puisqu'il n'y aurait plus de CDD, donc il y aurait une liberté de licenciement sans préavis associée à ce contrat qui n'aurait de nom que la durée indéterminée. Ensuite, on connaît tous les autres projets du candidat Sarkozy. En matière de fiscalité, il a annoncé d'ores et déjà que la TVA serait augmentée. Il reprend ainsi l'idée de Jean Arthuis, sénateur UDF, qui proposait une TVA sociale de l'ordre de 25%. On passerait le taux de TVA de 19,6 à 25% pour financer la sécurité sociale en contrepartie d'une baisse à la fois des cotisations sociales, une suppression des cotisations sociales et une baisse de l'impôt sur les sociétés. Le schéma ici étant de réduire ce que les libéraux appellent les impôts sur la production pour faire monter en puissance l'impôt le plus injuste qui est la TVA, puisque tout le monde paie la TVA au premier centime d'euro quand il va au supermarché. Et moi, j'aime utiliser le terme de retour à l'ancien régime pour caractériser ce projet fiscal, puisque dans l'ancien régime, les classes privilégiées ne payaient pas l'impôt. C'était les gueux qui payaient l'impôt. Ici, la TVA va peser sur les nouveaux gueux, les ménages modestes en premier lieu, hein, qui consacrent 8% de leurs revenus au paiement de cet impôt qui est le plus injuste. Et en contrepartie, on aura baissé les impôts des nouveaux privilégiés à travers la baisse à nouveau programmée de l'impôt sur le revenu, de la baisse de l'impôt sur les sociétés, de la suppression annoncée de l'ISF avec le bouclier fiscal accru, et puis avec la suppression des cotisations patronales.
Des sous et des hommes sur Aligre FM, donc, et on est en compagnie de Lim Hong-Nok, qui fait partie du Conseil national du Parti socialiste.
Mais quand même, un petit truc que je comprends pas, parce que tout à l'heure, j'ai aussi écouté Nicolas Sarkozy, son discours juste après les résultats, et globalement, il se revendique quasiment des classes populaires d'une part, puis surtout, il nous a assuré qu'avec lui, c'était la protection de chacun d'entre nous.
Mais Nicolas Sarkozy est l'héritier d'une famille qui s'appelle la famille gaulliste, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été extrêmement sociale au temps du compromis de 45 et pendant toutes les années 60. L'état social gaulliste, ça a été quelque chose. Le keynésianisme à la française, c'était, si j'osais être provoquant, c'est la droite qui l'a mis en place. Et aujourd'hui, la droite est en train de revenir sur tout ce qu'elle a représenté. La droite française de cette période n'était pas une droite libérale. Bérou, lui, représente la droite libérale en version soft, Madelin en version plus hard. Mais la droite gaulliste n'est pas une droite libérale. Et elle sait faire vibrer la fibre républicaine. Et Nicolas Sarkozy le fait fréquemment en matière de politique industrielle. Hein. Lorsqu'il était ministre de l'économie et des finances, il est intervenu auprès de Mario Monti à Bruxelles, le fameux commissaire néolibéral, pour obtenir la recapitalisation à l'époque d'Alstom, où il fallait que l'État réinjecte du capital. Il est capable, quand il le faut, de faire écrire ses discours par Henri Guénaud, taper sur les patrons voyous, la Banque Centrale Européenne, le pacte de stabilité, défendre même le protectionnisme. Il est capable de le faire pour des considérations électoralistes, mais aussi pour faire vibrer cette corde traditionnelle qui est celle de sa famille. Mais il ne faut pas tromper les Français. Derrière ça, il y a les faits et il y a le projet de rupture de Nicolas Sarkozy qui s'est incarné au cours de ces 5 dernières années. Et Dominique de Villepin lui-même, qui passe pour un gaulliste, a été conduit à répondre à cette surenchère, à entrer dans cette course lorsque lui-même prétendait à l'investiture. Je rappelle que l'histoire du CPE et le CNE sont des contrats de travail créés par Dominique de Villepin pour répondre à l'époque à la surenchère néolibérale que Sarkozy avait lancée du côté de l'UMP. Donc le parti gaulliste est bien sur une pente néolibérale qui le différencie de ce qu'il a représenté avant finalement que Chirac en 86 ne soit séduit par les sirènes thatchériennes et peu après que, pour les plus anciens, ils s'en souviennent, Chirac avait prononcé un discours de Cochin en 1979 qui avait été extrêmement républicain, national-républicain, et qui ressemblait à certains égards à certains discours du non au moment du référendum. Bon, il a vu que ça prenait pas dans son camp, et depuis cette date-là, la droite dérive lentement du côté libéral, et si vous voulez, la droite a ce débat qui a existé à gauche depuis 20 ans. Grosso modo, faut-il, à droite et à gauche, être libéral en aménageant son discours? Bon, vous voyez que le débat est ouvert de leur côté, comme d'une autre, et il est loin d'être tranché. En tout cas, je pense que l'enseignement de ces dernières consultations électorales, c'est que les Français refusent pour leur part le libéralisme. Ils l'ont exprimé clairement au moment du débat sur la Constitution. Et ici, le report de l'ensemble des voix sur un vote dit utile sur la candidate de gauche indique quand même que on a une gauche qui a envie de rester fidèle à ses valeurs.
Certains pourraient vous dire, de la même façon que ceux qui sont plus à gauche que le Parti socialiste classique peuvent espérer que Ségolène Royal fasse une vraie politique de gauche, peut-être peut-on attendre de Nicolas Sarkozy qu'il fasse une vraie politique gaulliste, c'est-à-dire que ce qu'il dit, il le fasse.
Oui, mais son programme n'est pas gaulliste, si j'ose dire. Dans les faits, si on lit ses tracts, ses déclarations...
Oui, mais tout à l'heure, il m'a assuré qu'il serait pour la sécurité, donc il était de tous les Français, donc il était effectivement sur une ligne gaulliste, c'est ce que vous venez de me dire.
Oui, mais la sécurité est pas... C'est un thème de société, ça. Moi, je vous parlais des questions économiques. Là, si on glisse sur le terrain de la société...
Non, mais même sur sécurité sociale, apparemment, de l'emploi pour tous, il a parlé de plein emploi.
Bah, les libéraux sont pour le plein emploi. Ils considèrent d'ailleurs que une situation où vous avez 3 millions de chômeurs, c'est une situation de plein emploi. Puisque ceux qui le veulent peuvent travailler, ceux qui sont au chômage sont ceux qui choisissent de rester au chômage, d'où le discours « travailler plus pour gagner plus ». Si vous voulez travailler, vous pouvez, et vous pouvez le faire en acceptant les conditions du marché. Et les économistes libéraux considèrent que les réformes de structure doivent inciter les chômeurs à accepter les emplois à conditions du marché. C'est ce qu'ont fait les réformes dites de structure en Allemagne. Cette philosophie n'est pas étrangère à un certain nombre de réformes qui ont été entreprises. Hein. On a réduit la durée et le montant des indemnités chômage sous Raffarin, personne ne s'en souvient, mais cette philosophie imprègne fortement les élites françaises.
Et sur des formes de quasiment de protectionnisme, je pense que tout à l'heure aussi, il était dans l'ordre de la défense de l'industrie française, etc., etc. On peut espérer quelque chose de lui ou la vision un peu, comment on pourrait dire, anglaise ou américaine de l'économie prévaut pour lui?
Moi, ma lecture, si vous voulez, c'est que il sait faire vibrer cette fibre. gaulliste. Donc le protectionnisme, ça ne le dérange pas. Le patriotisme économique contre les décisions de Bruxelles, ça ne le dérange pas. Maintenant, dans les faits, il est également fasciné par le modèle anglo-saxon. Lorsqu'il parle du rêve français, bon, c'est par analogie un pied de, un appel du pied au rêve américain. Bon, pour des considérations électoralistes, il est capable de faire vibrer, je vous le dis, les valeurs les plus gaulliennes. Il n'empêche qu'il a appelé à voter oui pour la Constitution et il sera de ceux qui appellera peuple à avaler la pilule sans faire même de référendum lorsque le texte reviendra.
C'est la raison pour laquelle Ségolène Royal tout à l'heure a reprécisé que elle passerait par un référendum justement sur tout traité européen, on pourrait dire traité constitutionnel européen. C'est pour prendre le contre-pied de Nicolas Sarkozy qui lui ne le fera pas passer par la voie référendaire.
Non, la question est tellement importante, je veux dire la Constitution, que cela ne saurait passer sans un assentiment du peuple, la question constitutionnelle. Donc il est logique que tous ceux qui défendent la démocratie, dès que la Constitution est en jeu, la fassent au moins ratifier ou refuser par le peuple. Alors Sarkozy sait très bien que ça sera non, sans doute dans les conditions dans lesquelles on sera dans 2 ans, et sous les réformes qu'il entend passer, et c'est pour ça que il le fera passer par voie parlementaire. Quant à nous, à gauche, il faudra rester extrêmement vigilant parce que pas parce que un traité sera resservi qu'il faudra le prendre pour argent comptant. Il faudra regarder ce qu'il y a dedans. Le débat, sans doute, continuera d'opposer les partisans de l'Europe libérale à ceux d'une Europe un petit peu plus sociale. Mais j'espère que si la France prend la présidence en 2008 et qu'elle est un petit peu à la manœuvre, on n'aura pas les désagréables surprises qu'on a pu observer dans le dernier texte.
Aligre FM 93.1.
Des souhaits des hommes, donc sur Aligre FM, et on est en compagnie de Lim Hoang Ngoc.
Il est possible que certaines personnes à gauche aient quelques préventions contre le fait de voter pour Ségolène Royal au deuxième tour, malgré tout. Je sais pas, ils vont peut-être partir à la pêche ce jour-là. Quels arguments on pourrait avoir pour les inciter à voter plutôt à gauche? Et surtout, derrière ça, c'est quelles sont les conditions pour que la politique que pourrait faire Ségolène Royal soit réellement une politique de gauche, ou qu'elle soit plus à gauche que ce qu'elle semble vouloir nous servir jusqu'à présent?
Le débat sera en tous les cas ouvert. Comme je l'ai dit pour commencer, il y a plusieurs lignes à gauche, et en particulier au Parti Socialiste. Et Ségolène Royal a peut-être essayé de se situer au milieu, d'où le fait que les uns et les autres se trouvent insatisfaits. Bon, par exemple, Ségolène Royal a tapé particulièrement fort sur la politique suicidaire menée par Monsieur Trichet à la Banque Centrale Européenne. Elle a défendu une certaine forme de patriotisme avec l'histoire du drapeau. Bon, cela contente une certaine partie de l'électorat chevènementiste et de l'électorat souverainiste. D'un autre côté, elle a pu se prononcer, peut-être maladroitement à mon sens, à propos de l'histoire de l'autonomie des universités et l'histoire du contrat première chance. Bon, mais il y a des socialistes libéraux qui, lorgnant vers Bérou, défendent ces idées. Bon, si vous voulez, elle est obligée, pour rassembler à la fois les socialistes libéraux et les socialistes sociaux, si j'ose dire, et les socialistes altermondialistes, il y en a, ou les socialistes souverainistes, il y en a, puisque nos amis du MRC sont en passe de revenir. Donc elle est un petit peu obligée de se situer au milieu. Mais le débat ne s'arrête pas au soir du deuxième tour. Au contraire, il sera de plus en plus ouvert. Quelle sera la ligne qui va l'emporter dans les arbitrages gouvernementaux par la suite? On ne sait pas. Et moi, j'invite tous ceux qui sont mobilisés, qui se sont repolitisés au cours de cette campagne, à venir peser sur les termes du débat, sachant qu'aujourd'hui, le PC est moribond, l'extrême gauche est droite très éclatée et beaucoup plus faible qu'on aurait pu le penser. Les Verts n'existent quasiment plus. Le débat aujourd'hui est au Parti Socialiste. Et moi, je me sens un peu seul parfois.
Certains pourraient craindre justement cette bipolarisation avec une espèce de droite hégémonique UMP d'un côté et une autre droite et une autre gauche, pardon, c'est un lapsus révélateur, une gauche hégémonique sous la forme du Parti Socialiste. Il n'y a pas un moyen de... Tout passe par le Parti Socialiste.
Écoutez, le clivage entre les socialistes et les communistes qui a été structurant tout au long du XXe siècle est né au Congrès de Tours en 1920, à partir d'une divergence d'appréciation quant à la manière d'arriver au socialisme. Les uns militant pour la dictature du prolétariat et le soutien au système soviétique qui naissait à l'époque, les autres pensant que la démocratie politique était le meilleur instrument et que la République était l'humus du socialisme, comme le disait Jaurès à l'époque. Bon, je connais très peu de gens aujourd'hui, même à la Ligue communiste révolutionnaire, qui défendent l'économie planifiée. Au PC, il n'y en a plus. Et si vous lisez le discours de Besancenot et le discours de Buffet, c'était beaucoup plus à droite que le programme commun de la gauche en 1974. Donc, ne pérennisons pas de faux clivages. Je pense qu'aujourd'hui, la gauche éclairée, sous toutes ses diversités, défend la transition au socialisme par la démocratie. Et si l'unité est la condition pour que cette gauche-là puisse arriver à nouveau au pouvoir, le débat démocratique doit pouvoir exister également au sein du parti de cette gauche. Bon, j'espère que on va pouvoir, puisque ce parti est amené à grandir avec de nouveaux adhérents, organiser de la façon la plus sereine et la plus transparente possible les futurs débats.
Inch'Allah.
Et oui, donc c'était Des Sous et des Hommes sur Aligre FM. On était en compagnie de Lino Ovno qui était venu le soir des résultats du premier tour. Eh bien, on n'a plus qu'à attendre dans 15 jours la suite. En tous les cas, la semaine prochaine, on pourra écouter Pierre-Yves Chanu, qui est économiste à la CGT et qui nous parlera des private equity et des LBO. C'est un petit peu quand les entreprises non cotées en bourse entrent dans le collimateur. Voilà, à la semaine prochaine.